Bienvenue sur Radio Grenouille pour cette émission spéciale Nuit d'hiver numéro 10. C'est Sébastien Gély à la réalisation, Stéphane Galland au micro, très heureux de vous retrouver sur les ondes du 88.8 FM ou sur le web de radiogrenouille.com pour cette émission, donc autour de la 10e édition du festival Nuit d'hiver. Et j'ai également le plaisir d'être dans le studio avec Jean-Marc Montera et David Merlot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Marc Montera, directeur du GRIM qui organise le festival Nuit d'hiver, le groupe de recherche et d'improvisation musicale, et programmateur donc de cette édition numéro 10 qui tourne autour du musicien et penseur américain John Cage. Et David Merlot, membre alors je sais pas comment on appelle ça, double quatuor, double quartet, subspecies.
On peut dire ensemble.
Voilà, ensemble ça, tout simplement, qui est venu donc pour nous présenter cette formation qui se produira dans le cadre de ces nuits d'hiver, et pour participer avec nous et bien autour d'une petite causerie où on va vous détailler cette programmation dans l'ordre chronologique et sans doute aussi en profiter pour aborder la question de l'héritage de John Cage dans les musiques au pluriel, évidemment plutôt expérimentales d'aujourd'hui. Nuit d'hiver, c'est cette année du 12 au 21 décembre 2012. C'est l'édition, la 10e, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est un festival qui est encore un petit peu, j'ai envie de dire, Jean-Marc Montera, forcé au nomadisme, même si vous n'y avez pas trouvé que des désavantages. Ça commencera du côté de l'Alcazar. Et on retrouve la programmation que vous avez concoctée cette année à Montevideo, à la Friche Belle de Mai, à la Compagnie, à l'Embobineuse, au Temple Grignan. Ou encore à Clap, maison pour la danse. On reparlera de ces différents lieux au fur et à mesure, mais d'abord une petite question sur ce nomadisme forcé, mais aussi sur votre retour cette année pour une partie des soirées dans vos locaux de Montevideo. Vous pouvez nous faire un petit point sur la situation?
Oui, le nomadisme, on avait l'habitude, hein, avant 99, on avait erré pendant une vingtaine d'années, donc on a pris l'habitude de transporter armes et bagages à droite à gauche. Fort heureusement, chaque fois, on a été toujours très bien accueillis par les structures qu'on sollicitait, hein, que ce soit les musées, les théâtres, les galeries d'art. On a toujours eu un point de chute qui était de qualité et en rapport avec la programmation proposée. Donc cette année et les deux années précédentes qui nous ont obligés à ce retour au nomadisme, on a retrouvé le même élan de solidarité et d'écoute de la part des structures d'accueil. Et là, ce qui a changé par rapport à 2010 et 2011, en 2012, on a la possibilité à nouveau de refaire des choses à Montevideo, chez nous, dans nos locaux.
Dans ce superbe espace qui est le vôtre et qu'on est bien content de pouvoir refréquenter un peu plus régulièrement, on l'espère.
Oui, et puis on espère que l'autorisation va être contagieuse à l'étage supérieur, parce que là pour l'instant on a une autorisation d'ouverture au public pour une jauge réduite au rez-de-chaussée, c'est-à-dire le hall et le studio musique et la cour. Et on œuvre pour que le studio théâtre, dirigé par Hubert Collat, puisse réouvrir aussi et bénéficier des mêmes autorisations. Donc on met en route une dynamique autour de Montevideo, ce qui nous était demandé depuis bien longtemps, mais malheureusement ça ne dépendait pas uniquement que de nous, quoi.
Alors du coup, depuis quelques années, ce festival va un peu plus voir ailleurs, hein, par nécessité aussi, mais c'est plutôt un bien également, parce que ça vous permet, on le voit notamment avec la belle programmation de cette année autour de Cage, par exemple, de souligner comment est-ce que l'influence de ce musicien, et d'ailleurs son travail tout simplement, est extrêmement poreux et traverse les frontières musicales, en proposant des choses très différentes différentes, très adaptées aux différents lieux. Hein, je le disais, on va du temple de la rue Grignan où on va entendre des pièces pour orgue dans une ambiance qu'on pourrait presque qualifier de religieuse, donc jusqu'à l'embobineuse où c'est plutôt à Satan que se font les messes, généralement, j'ai envie de dire, avec un clin d'œil évidemment, bonjour à l'équipe de l'embobineuse, mais où on entendra plutôt des choses proches de la noise, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, là c'est la 10e édition, vous la faites concorder avec des anniversaires qui concernent aussi Cage, mais c'était quoi l'intention de ce festival à la base? Il y avait quelque chose déjà à propos de ça, non? La porosité des frontières musicales, y compris et surtout dans les musiques dites expérimentales.
Oui, c'est en fait le prétexte de l'anniversaire, du 100e anniversaire de la naissance de Cage, du 20e de sa mort et du 10e anniversaire du festival Nuit d'hiver. En fait, ces histoires de bougies sont en fait des prétextes pour mettre en relief l'étendue des champs musicaux dans lesquels on peut retrouver du Cage, y compris à des endroits où on l'attendrait le moins. Les groupes qui sont invités dans cette programmation qui ne joue pas expressément du Cage, je pense en ont subi les influences, en tout cas de sa philosophie, de son rapport au son et de son rapport à la matière sonore et au timbre en général.
Alors de manière d'ailleurs assez, j'ai envie de dire, pédagogique, puisque cette influence est multiforme et assez, j'ai envie de dire, complète. Vous commencez par une conférence mercredi 12 qui se fera à l'Alcazar avec Jean-Yves Bosseur, qui est plutôt un connaisseur hein, en la matière, et qui nous dit qu'en gros l'influence de John Cage s'étend bien au-delà de ce pourquoi il est très connu, hein, le piano préparé notamment, et que ça va jusqu'à comment dire, avoir été à l'origine de formes d'expression comme le happening, la performance ou les installations multimédia. Jean-Yves Bosseur donnera donc une conférence musicale intitulée « La musique de John Cage ou l'ouverture au monde sonore ». En effet, c'est peut-être, pour être très général, l'apport majeur de Cage, c'est peut-être ça, c'est d'avoir modifié la pensée de la perception du son et du coup d'avoir peut-être modifié la perception du son qu'en ont les musiciens. David Merlot, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Ça te semble...
Ben, ça me semble assez juste. Après, moi, j'oublie pas que Cage a su à un moment cristalliser pas mal de choses, mais il y a aussi eu avant lui des choses qui ont été faites, et sûrement que lui a particulièrement bien comprise. Et ce qui lui a permis d'impulser d'autres choses derrière.
Fournir des éléments aussi d'analyse, des éléments conceptuels un peu clairs.
Voilà.
Alors, en ce même jour d'ouverture, donc, ça va se passer à Montevideo, où vous proposez d'ouvrir le festival avec le vernissage de l'exposition de l'artiste plastique que vous avez choisi cette année, qu'on retrouve en fil rouge sur un petit peu l'ensemble du festival, Jean-Marc Montera. Elle s'appelle Anne Pêche. Et elle est de Nice. Vous pourriez nous décrire son travail en quelques mots, pour pouvoir découvrir les auditeurs à partir du 12 à Montevideo.
Alors, elle travaille sur deux types de matériaux, la céramique et la vidéo. Son travail en céramique est étonnant, parce que on a le choix de projeter un petit peu ce qu'on veut dessus, c'est-à-dire que ça peut être soit une cible, soit un vinyle. Donc, même dans le mouvement de son, dans le mouvement pictural de son travail, on retrouve la dynamique circulaire du vinyle. Et son travail vidéo m'a étonné, parce que il est très proche de celui, en tout cas d'un point de vue du point de vue du matériau et du graphisme utilisé, de celui de Alexander Schello, avec qui je vais présenter un bout de travail à la compagnie le 16, qui est un travail au crayon, en mouvement, en rapport avec du mouvement image. Et il me semblait que c'était évident qu'il fallait faire cohabiter ces deux pratiques.
D'accord. Ce même jour aura lieu la restitution de l'atelier que vous êtes en train de diriger autour de Radio Music de John Cage. De quoi s'agit-il ?
C'est un concert de radio.
D'accord.
Un concert de radio. Il y a 8 participants avec une radio chacun, une partition qui correspond à des changements de fréquence à des moments bien déterminés, non déterminés dans un temps déterminé. Ça, c'est le propre de Cage, hein, le temps, la durée et l'indétermination. On a 6 minutes pour jouer l'ensemble de la partition qui consiste à faire superposer des différentes fréquences de radio qui jouent et qui sonnent en même temps.
D'accord, des fréquences si possible pas attribuées. J'imagine.
C'est l'aléatoire qui va
d'accord.
décider.
Ça peut être
d'accord.
un tirage. Ouais.
Alors, allez, ce qui faut peut-être rajouter, c'est anecdotique, mais à l'époque de Cage, quand il a écrit cette pièce en 51, toutes les radios étaient équipées d'ondes courtes, mm-hmm. hein, ce qui favorisait ce dont vous parliez, hein, des fréquences non attribuées, c'est-à-dire que l'intérêt était effectivement de stationner à des endroits où soit on tombait sur Radio Moscou, soit sur un bruit blanc.
Sur des textures,
voilà. etc. Ouais. Là, maintenant, avec une bande FM un tout petit peu aseptisée, on a du mal à tomber sur du bruit blanc, en fait.
Ouais. qui participe à cet atelier ? Ce sont des musiciens ? Ce sont des...
Pas du tout.
Non, pas du
non,
tout.
Non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont répondu à la proposition qu'on
d'accord.
a faite de venir s'inscrire et de venir avec sa propre radio. Et on a travaillé samedi après-midi pour mettre en place les 6 minutes en question.
Est-ce que John Cage n'était pas une sorte de punk avant l'heure, de la musique pour et par des gens qui ne sont pas nécessairement musiciens ? Ou est-ce que je vais un peu loin là ?
Ça, il faudrait que je prenne un temps pour réfléchir, savoir si John Cage était punk. Je crois pas, parce que le mouvement punk regroupe une revendication sociale et dans son mode de revendication, quelque chose de très différent. Hein, dans le, si vous voulez, on peut les rapprocher sur le sentiment et la philosophie anarchiste qui pourrait les réunir. Mais si vous voulez, l'anarchisme de John Cage vient de Sorrow, qui est plutôt pacifiste. Hein, on peut pas dire du mouvement punk qui est plutôt agressif et street fighter.
Ouais, et même si son travail a souvent été pris aussi pour une provocation, je crois pas que c'était apparemment pas un provocateur dans l'âme non plus, John Cage, mais plutôt quelqu'un qui suivait son sillon.
Non plus. Oui, c'était une. Il y a évidemment une forme de provocation à faire une pièce comme 4 minutes 33. Et si on la prend
de silence, je précise, pour les auditeurs qui ne connaissent pas.
Ouais. Ça peut paraître.
Ou à détourner l'usage d'un instrument aussi symbolique que le piano.
Ouais. Oui, mais c'est le pragmatisme qui l'a poussé à ça.
Hein. Oui.
Si la salle de danse de la Ford était plus grande, il aurait pu faire Bacchanal avec piano et percussion comme c'était prévu, mais bon, il a été obligé de mettre les percussions dans le piano parce que c'était pas possible autrement.
Je vous propose une première pause musicale avec Takumi Fukushima, qui est toujours programmé à Montevideo lors de cette soirée d'ouverture, qui est violoniste et dont vous allez entendre également la voix dans l'extrait qui suit. C'est l'émission spéciale Nuit d'hiver numéro 10 sur Radio Grenouille.
ささやき合い kotoba kawasu din don nichiyō no asa kane no oto de me o samasu din don don din ton ton din don don din ton ton hane hirogeta tori no yō
Fukushima qui vient de sortir un premier album solo intitulé Yume, dont vous venez d'avoir un aperçu. Elle sera également en solo le mercredi 12 décembre à Montevideo pour cette soirée d'ouverture du 10e, de la 10e édition, j'allais dire du 10e anniversaire, mais c'est un peu ça aussi, de Nuit d'hiver. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille avec David Merlot et Jean-Marc Montera. Le même soir, Alpha Béville propose une série de projections à la Friche Belle de Mai, à la salle Seita, dans le cadre de Uncage, un événement qui tourne lui aussi autour de la célébration de cet anniversaire de ce musicien. Événement que vous recommandez, évidemment, Jean-Marc Montera aussi. Et du côté de la Friche Belle de Mai, vous y serez pour la deuxième soirée de Nuit d'hiver, le 13.
Oui. Donc c'est pas le même soir. Hein.
C'est non,
le,
voilà.
C'est le lendemain.
Là c'est bien le lendemain, le jeudi 13 décembre, avec une programmation qui est faite en collaboration avec Alpha Béville justement, et avec une soirée assez riche, une jolie soirée qui commence à 18h30 avec Julien Blaine, j'ai envie de dire poète, performeur, pour qui le son a aussi beaucoup d'importance. Et là d'ailleurs il s'agit d'une lecture et d'un concert, c'est ça, hein, oui. Voilà, une lecture suivie d'un concert avec des conques préparées, jouées et brisées. Alpha Béville propose également des performances d'Eric M et de Natasha Muslera dans le cadre de ce programme John Cage. On entend en ce moment un extrait de Landscape de Cage, Imaginary Landscape numéro 4 fait partie du programme qui sera donné ce soir-là, interprété par Eric M. Natasha Muslera donnera une pièce vocale, je crois, en solo, et on aura droit ensuite au fameux 4 minutes 33, toujours avec Eric M. Et tout ça donc se passe au studio de la Friche Belle de Mai à partir de 18h30. 30. Un commentaire là-dessus, Jean-Marc, sont des, là on est dans des pièces assez classiques, j'ai envie de dire, de Cage, c'est le paysage et...
Oui, Imaginary Landscape numéro 4, c'est une des premières pièces de Cage avec de l'électronique. Donc j'imagine que même si c'est devenu un classique, je pense que la lecture que va en faire Eric M. sera tout à fait contemporaine. On peut lui faire confiance là-dessus. Bon, Colette Tron d'Alpha Belleville pourrait en parler mieux que moi, parce que c'est elle qui programme cette partie-là de la soirée qu'on a concocté en commun, parce qu'effectivement on était, le Grimm n'était pas le seul à fêter l'anniversaire de John Cage, donc on a décidé de faire cette soirée ensemble, et ensuite on fera le John Cage Project avec le cabaret contemporain et Étienne Jomé, qui est un des deux musiciens de Zombie Zombie.
Le cabaret contemporain, oui, donc un John Cage Project qui tombait à pic, hein, évidemment. Comment vous présenteriez cette formation? Donc on connaît un peu Étienne Jomé, notamment les auditeurs de Grenouille qui sont peut-être un peu plus versés dans les musiques dites actuelles que dans la musique contemporaine ou dans les musiques expérimentales. Quoique, puisque la preuve, on y consacre aussi du temps d'antenne. Donc on connaît un peu Étienne Jomé avec Zombie Zombie et puis son projet solo. Le cabaret contemporain, ce sont des musiciens qui sont là encore à la croisée de plusieurs de plusieurs approches, quoi.
Oui, ce sont des musiciens qui sont en fait réunis autour d'un projet, ce sont jamais les mêmes.
D'accord.
Il y a un noyau dur qui est constitué, mais le casting est fait en fonction du projet. Là, j'imagine que ça va être, si on pouvait essayer de le définir en deux mots, ça serait atypiquement cajun ou cajunement atypique. Comme vous voulez.
Donc ça commence, je récapitule, à la Friche, jeudi 13, au studio à 18h30, avec Julien Blaine, Eric M et Natacha Muslera, et puis ça se poursuit du côté de la salle Seita, toujours à la Friche Bellamy, avec la deuxième session de concert à 21h30, le cabaret contemporain avec Étienne Jomé, autour du projet John Cage. Mais juste avant, on entendra Subspecies, justement David Merlot est avec nous, qui tient la basse, mais qui est aussi, qui n'est pas pour rien dans la direction musicale de cet ensemble de 8 musiciens, qui voit, on va dire, collaborer. Tu vas nous dire, David, sous quelle forme et avec quelle intention, un quatuor plutôt classique, violoncelle, alto, clarinette, saxophone, avec un quatuor plutôt noisy, basse, clavier, guitare, batterie, dont tu fais partie. Donc Subspecies, quelle est l'intention à la base de cette collaboration?
L'intention à la base, c'est de croiser les modes d'approche d'une façon de faire émerger la matière musicale. C'est-à-dire, nous, la question qu'on se posait à la base, c'est comment on peut arriver à des liens, soit d'empathie, soit d'opposition, mais du moins faire se croiser ces modes d'approche de la matière musicale. Voilà, comment on peut se faire rejoindre ça. C'était pas tant de se dire on aimerait créer un projet avec telle potentialité stylistique qui puisse aller d'un côté, de l'autre. Non, c'était plutôt vraiment comment on peut faire en sorte que plusieurs traditions de pensée de la musique peuvent rejoindre leur énergie sur un événement musical.
D'accord, et pas dans quelque chose de prédéfini, encore une fois, mais plutôt dans quelque chose c'est une manière de se poser des questions, plutôt, aussi.
C'est ça, ouais.
Et d'éventuellement trouver des réponses dans la pratique. C'est assez cage, ça aussi.
Et peut-être bien, oui. Ouais. Oui, parce que c'est forcément des espaces différents qui sont confrontés. T'as parlé de porosité tout à l'heure. Et c'est justement ça qui est mis en jeu, quoi. C'est la porosité entre ces espaces-là, quoi. C'est questionner les frontières et voir ce qui se passe justement quand ces frontières-là se rencontrent et quels sont les liens d'un espace à l'autre, quoi.
Dans ta trajectoire personnelle de musicien, cette frontière-là, tu avais déjà eu l'occasion de la franchir, je veux dire,
sans arrêt.
Ouais. D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu de cette trajectoire? Tu as suivi quelle Moi, j'ai, type de formation.
J'ai suivi
quel parcours.
Ouais. Ouais, ben ouais, en formation, j'ai suivi d'abord une formation en musique actuelle. Bien que quand j'étais enfant, j'ai fait du violon et voilà, musique classique. Je me suis formé à ça. Ça a duré quelques années. Quand je suis revenu vers la musique, voilà, je suis parti plutôt vers la musique actuelle. En tant que bassiste, j'ai fait une école à Avignon qui s'appelle ProMusica. Peut-être que vous connaissez ici. Ou... Et qui avait la chance d'être, enfin qui avait la chance, qui avait la qualité d'être dirigé par un compositeur là, qui s'appelle Dominique Lièvre, et qui dispensait des cours de musique, y compris de musique contemporaine, de composition. Et ça m'a dirigé, c'est venu répondre à une envie chez moi d'autre chose que juste l'élaboration de la musique actuelle, ou voilà, enfin que je prends énormément de plaisir à pratiquer. Après, musique actuelle, on est d'accord que c'est un terme assez vaste, assez large, assez c'est mal clair. Défini. Mmh. Mais voilà, enfin, c'était quelqu'un qui donnait l'envie de toute façon aller à droite à gauche et aller plus loin que ce qu'on avait juste devant la tête, quoi. Donc derrière ça, moi, j'ai eu envie de creuser plus au niveau de l'écriture et cette personne, Dominique Lièvre, m'a conseillé d'aller plutôt faire une classe en conservatoire, une classe de composition, quoi. Donc je suis allé suivre les cours de Régis Campo ici au conservatoire, jusqu'en 2011 en fait. Voilà, je passais un prix de composition ici. Et voilà, et entre-temps, entre ces parcours-là, sur des projets, je me suis autant baladé que sur l'improvisation totalement libre. Entre l'impro libre et le death metal, en passant par la musique africaine, la salsa, le funk, voilà, enfin j'ai en essayant d'y trouver toujours le même type de plaisir, si tu veux, en jouant ça. À force de me rendre compte que c'était toujours possible de trouver ce type de plaisir là, voilà, je suis devenu assez insatiable au niveau de ces envies de toujours d'aller dans des espaces différent. Mais je pense que depuis quelques temps, tout ça commence à se ramasser un peu sur lui-même, à trouver plus de cohérence. Ouais, là j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais...
Évidemment, c'est toujours difficile de mettre des mots sur sa propre pratique, et surtout sur des choses qui peuvent être... qui sont censées se passer de mots, finalement, la musique, enfin... Dans un certain absolu. Subspecies, en tout cas, donne corps à cette envie-là, même si tu tiens à préciser que tu n'es pas le leader de la formation, tu en es plutôt le principal directeur musical, mais il y a une envie, un élan commun. Mmh. Je vous propose de consulter, si vous êtes devant votre ordinateur ou pas loin, Internet, pour voir toute la programmation de cette 10e édition de Nuit d'hiver, www.grim-marseille.com www.grim-marseille.com. On y lit par exemple ce qu'a écrit David Merlot: les interprètes sont investis d'une responsabilité qui dépasse leur interprétation, ils sont l'écriture vivante en devenir, pour n'en lire qu'un extrait. Un extrait donc où David Merlot nous parle de Subspecies, que je vous propose d'écouter maintenant, qui joue le 13 décembre à la Friche Belle de Mai, à la salle Seita, dans le cadre des Nuits d'hiver.
Thank you.
Subspecies, enregistré il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours.
Il n'y a même pas une semaine. Ouais.
Voilà, au Grimm, où puisque vous y êtes en résidence de création.
Ouais, on y était la semaine dernière. Ouais.
D'accord. La formation date de quand à peu près ?
La formation, c'est un projet qu'on a formulé il y a l'été 2011. On a commencé à travailler en quatuor électrique assez tôt, et puis la formation acoustique, elle a commencé à prendre forme en septembre là, 2012.
D'accord.
Donc leur cohésion est due, elle, à deux périodes de résidence de 4-5 jours à chaque fois, plus des répètes isolées. On s'est concentré juste sur leur travail.
Alors, on a bien compris hein, l'intention qu'il y avait, j'ai envie de dire, derrière cette formation, à l'origine de la réunion de ces 8 musiciens. Tu m'expliquais hors antenne que, un peu plus précisément, que l'improvisation et l'écriture étaient à chaque fois, on va dire, interconnectées de manière différente, dans le sens où l'improvisation vient éclairer des parties écrites. Là, par exemple, tu dirigeais, on t'entendait pas à la basse, tu dirigeais le quatuor, tandis que les autres instrumentistes, Thomas Weyrich, Damien Ravnich
et
Simon Siget, improvisaient sur cette partition écrite. Est-ce que, du coup, quand vous variez les modes les modes d'interprétation, est-ce que les formes musicales varient beaucoup ? Est-ce qu'on se retrouve avec des choses très très différentes dans le répertoire de Subspecies aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte d'esthétique un peu dominante ?
Voilà, en fait, on se situe voilà, justement entre ces deux choses-là.
Okay.
Ce dont on a envie, c'est quelque part d'une pièce à énonciation unique, où ce qui sera joué là, sur un concert ne sera jamais rejoué. L'ordre dans lequel les choses sont jouées va toujours rester le même. Les choses qui seront écrites, fixées, resteront écrites et fixées. Donc, après, voilà, c'est dans les degrés d'interprétation de l'écriture et dans la place qui est laissée à l'interaction par rapport à ce que les musiciens ont envie de faire par rapport à l'écriture. C'est là que ça va bouger. Donc, il y a une couleur globale, quelque part, qui va se répéter. Mais après, c'est dans la forme elle-même précise et dans l'énonciation précise d'un concert de l'un à l'autre, on n'aura jamais la même chose. Voilà, c'est un peu de cette souplesse qui se soumet quand même à une cohérence globale dont on a envie, quoi.
Est-ce que tu aimes les champignons, David Merlot ?
Oui, beaucoup.
Tant mieux, puisque donc ce soir-là, jeudi 13 décembre, plus du programme dont on parlait tout à l'heure, il y aura un repas de champignons proposé aux grandes tables de la Friche, puisque John Cage était, en dehors d'être un musicien, un penseur, et puis d'être pas mal d'autres choses, aussi un passionné de champignons, et même plus, je crois qu'on dit mycologue, c'est ça qu'on dit, Jean-Marc, ouais. Accompli et reconnu, bref, expert. Toujours autour mais de John Cage, mais pas que, hein, puisque c'est le thème de cette 10e édition de Nuit d'hiver. John Cage, mais pas que. Le vendredi 14 décembre, on ira à la Compagnie, très beau lieu à découvrir si vous ne le connaissez pas, situé au 19 rue Francis de Pressensé, dans le quartier de Belzunce, où Jean-Marc, tu vas montrer une partie du travail dont tu nous parlais tout à l'heure avec Alexander Chello, dont le travail lui est visuel, mais dans votre collaboration, il y a une vraie concordance de moyens a priori différents, hein, une forme de pointillisme pour commencer qui prendrait une certaine dimension au fur et à mesure. Ça s'appelle Own a Title, sans titre, donc c'est
sans
ça.
Titre,
hein.
Oui. Aussi. Ouais. Pointillisme, c'est le mot, parce que Alexander est un dessinateur, un plasticien qui vient de la bande dessinée en fait, et qui dans ce projet là. Dessine en direct un visage uniquement avec des points, qui est le visage d'une personne âgée, une vieille dame qui a 96 ans, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et il reconstitue son visage de mémoire uniquement avec des points et en direct, et crée une animation live. Il y a une caméra sous une table vitrée, on voit le travail qui est projeté sur un écran derrière lui, et je joue en direct sur cette proposition là. On a fait ça à l'Alhambra de manière très ponctuelle il y a quelques mois, et là on va essayer d'en montrer un travail qui s'inscrit un tout petit peu plus dans une durée. On va présenter deux pièces, deux interventions d'une vingtaine de minutes chacune.
Toujours à la compagnie, Alex Griot, notamment vibraphoniste de son état, a aussi le sens de l'humour et du défi, puisqu'il interprétera une pièce intitulée 45 Minutes for a Speaker de John Cage, qui détestait le vibraphone apparemment, qui disait dans l'avant-propos de ces 45 Minutes for a Speaker: le résultat a été 2 secondes par ligne, soit 45 minutes pour le texte entier. On a quelques peines à lire tout le texte à cette vitesse, mais on peut essayer. Donc Alex Griot à la compagnie pour cette pièce, j'ai envie de dire lue, donc oui, tout à fait. Et puis toujours à la compagnie, Anne Pesch, dont tu nous parlais en début d'émission, Jean-Marc, qui proposera la projection d'un de ses travaux vidéographiques. Si je ne m'abuse, oui, c'est bien ça. Le lendemain, c'est du côté de l'Embobineuse, donc, où il ne va pas s'agir de messe noire, non, mais bien de musique dites actuelles, plutôt dans toute leur largeur et plutôt bruyante. La Terre Tremble partage l'affiche avec ZA. Les premiers sont auvergnats, les deuxièmes sont espagnols, et de loin, on pourrait dire qu'ils font tous les deux, que les deux formations font beaucoup de bruit, mais elles ont des approches assez différentes. On va écouter un extrait de La Terre Tremble qui joue donc le samedi 15 décembre à l'Embobineuse dans le cadre de Nuit d'hiver, pour vous donner à entendre, si vous ne l'aviez pas déjà compris, toute la diversité de la programmation de ce festival. terre tremble avec Elements, extrait de leur dernier album Salvage Blues, le trio auvergnat, donc pour dire vraiment pour dire d'où ils viennent, parce que ça ne vous aidera pas à définir leur couleur musicale, même si on peut on pourrait avec Za, avec qui ils partagent l'affiche le samedi 15 décembre à l'Embobineuse, on va dire que c'est des groupes qui, à partir d'un matériau plutôt rock, en tout cas, propose d'infuser ça de tout un tas d'influences, où on va dire des compositions relativement savantes, en tout cas pour des esthétiques plutôt rock, cohabitent avec des vrais espaces d'improvisation aussi. Le festival Nuit d'hiver continue ensuite le dimanche 16 du côté du Temple Grignan pour une parenthèse un petit peu au milieu de deux soirées pleines de bruit et de fureur. Au Temple Grignan, on entendra le discours sur rien qui sera donné par Bernard Bloch, un récital de violoncelle de Séverine Ballon autour d'œuvres de Cage, toujours, il me semble, hein, Jean-Marc, je ne dis pas de bêtises.
Il y aura une pièce de Lunchman aussi.
D'accord. Donc violoncelle solo et le fameux organiste Freddy Eichelberger qui vit à Marseille et qui donnera des œuvres. Qui jouera des œuvres assez rares, les œuvres pour orgue de John Cage, donc sur l'orgue du temple de la rue Grignan. Tout ça, c'est le dimanche 16 décembre, avant que le bruit et la fureur ne reprennent leurs droits dans le festival Nuit d'hiver, où on se tournera vers des formations, j'ai envie de dire, encore plus sauvages, peut-être Gotul et Talweg, qui s'expriment dans les confins du rock noisy, du free jazz, et d'autres esthétiques là aussi, qu'il serait fastidieux de dénombrer. Je vous propose d'écouter un extrait c'est Talweg qu'on a décidé de vous faire entendre. C'est le jeudi 20 décembre, ou c'est Gotul, hein, oui, c'est Gotul, pardon. Jeudi 20 décembre à Montevideo pour la deuxième soirée donc, qui se déroule à Montevideo dans le cadre de ces nuits d'hiver. Talweg. Gotul avec Lueur Antoptique, c'est le titre de la pièce que vous venez d'entendre. Gotul le jeudi 20 décembre à Montevideo pour une soirée où ils se produiront juste avant Talweg. Gotul c'est un trio, Talweg ils sont deux, chant, batterie, en tout cas deux formations où s'exprime peut-être plus radicalement le refus de formes héritées du rock, même si tout cet héritage-là n'est pas balancé par-dessus bord, et où évidemment, comme vous avez pu l'entendre avec Gotul, en tout cas, improvisation et plutôt un certain radicalisme sonore ont aussi leur place. Une soirée qui se terminera avec un contre-pied savoureux par un DJ set du crew Marseille Manhattan, qui nous présentera John Deneuve, Doudou Boy et Rémi B. Un set spécial Marseille Manhattan, John Cage, French Kiss, tout un programme, on peut leur faire confiance. Donc ça c'est l'avant-dernière soirée de cette 10e édition de Nuit d'hiver qui se terminera donc le 21 décembre. Vous avez choisi de revenir en des terres marseillaises pour la soirée de clôture, Jean-Marc Montera, qui se déroulait jusqu'à récemment du côté d'Avignon, hein, je crois.
Oui, c'était à la Courroie.
Ouais, à la Courroie l'année dernière, enfin sur les deux dernières années. Mmh. Là, ça va se passer à Clap, Maison pour la Danse, dans une proposition qui, donc, puisqu'on parle de cohésion entre la programmation et les lieux qui l'accueillent, a quelque chose à voir avec le geste musical, évidemment.
Oui, dans un lieu de danse, on pouvait pas, faire l'impasse là-dessus. Donc, la soirée cajienne qui invite aussi Christian Wolff, hein, qui c'est un petit peu sur ce sur quoi il faudrait mettre l'accent là, c'est suffisamment exceptionnel d'avoir un compositeur qui a fait partie de l'école de New York avec Cage, Earl Brown, Frédéric Reski. Et Morton Feldman, d'avoir la chance de l'avoir ce soir-là pour des pièces piano solo, une improvisation et accompagné avec Paul Elwood, notre banjoiste préféré, habitué du festival Nuit d'hiver.
Et toi à la guitare.
Et moi à la guitare. Et il y aura une conférence de Sarah Effley aussi, qui est professeure à l'université, dans une université à New York.
Qui proposera ses réflexions sur l'école de New York, justement.
Oui, voilà, qui va justement faire l'éclairage un petit peu sur cette école qui en fait n'en est pas vraiment une, parce que chacun des participants, je crois, a revendiqué plus une autonomie. En fait, c'est une école autoproclamée par les gens qui l'entouraient plus que par les gens qui la constituaient. Mmh. Et ensuite un concert Cage avec Gaston et Brigitte Sylvestre, Alexandre Régis et sa classe de percussion qu'on avait invité lors de la première édition de Nuit d'hiver il y a 10 ans. Donc on renouvelle cette invitation. On pouvait pas ne pas faire un hommage à la percussion, à cet instrument mis en relief par Cage.
Tout ça donc pour cette soirée de clôture du vendredi 21 décembre à Clap, Maison pour la Danse, 5 avenue Rostand, dans le 3e, sous donc à l'occasion toujours du centenaire de Cage et du focus particulier qui est fait autour de John Cage dans cette programmation des 10e nuits d'hiver. J'ai envie de vous dire bon anniversaire, Jean-Marc Montera.
Merci.
Bon festival à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Merci David Merlot de Subspecies, qu'on retrouve ici à la Friche Belle de Mai le jeudi 13 décembre dans le cadre d'un programme que vous pouvez retrouver dans son intégralité en détail sur www.grim-marseille.com www.grim-marseille.com. C'est les nuits d'hiver numéro 10 du 12 au 21 décembre 2012. Vous pouvez réécouter cette émission mardi prochain à 14h30 ou bien en podcast sur le www.radiogrenouille.com. Et pour se quitter, on va écouter une pièce où on entend Christian Wolff, donc, qui est l'invité de votre soirée de clôture au piano pour le Keyboard Miscellany Number 5. Merci à tous deux encore.
Yeah.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.